I'm turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 14.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Nous étudions cette première lettre aux Thessaloniciens qui a été écrite probablement moins d'un an après la fondation de cette église qui a été fondée par l'apôtre Paul, qui est accompagné par Silas et Timothée à ce moment-là, environ en 51 après Jésus-Christ. Et à présent, moins d'un an après, il leur écrit cette première lettre. Il écrit de Corinthe et il leur rappelle ces bénédictions qui ont été déversées sur eux et leur propre conversion et comment ces choses se sont passées quand il est arrivé. Et cet encouragement qu'il leur a donné. Cette église était composée de juifs quand ils sont arrivés, qu'ils sont allés à la synagogue. Il y avait une petite récolte, là, nous lisons, avant l'opposition. Quelques juifs se sont convertis. Et après cela, Paul, Silas et Timothée ont prêché aux non-juifs dans cette ville d'à peu près 200 000 personnes, une ville très fière, très riche, très prospère, une capitale romaine de la Macédoine, de cette province. Cette ville qui était une ville libre dans cet empire romain qui était très fier d'avoir cette position dans l'empire romain. Et cependant, une ville qui est idolâtre et si ancrée dans ses superstitions. Et beaucoup de non-juifs sont convertis et viennent à Christ. Ainsi, c'est une grande église qui est formée ici, une église de jeunes chrétiens, de très jeunes chrétiens, et cependant, ils se tiennent fermes pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul leur écrit à présent. Nous avons considéré certaines choses qui ont déjà été dites dans les deux premiers chapitres. Mais ce passage qui commence au chapitre 2, au verset 14, il y a trois aspects que nous devons souligner dans ce verset. Il y a d'abord ces convertis de Thessalonique qui sont prêts à souffrir pour témoigner pour Christ. Ils n'hésitaient pas et ils ont continué et l'apôtre Paul les recommande. Et il dit « Frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. » Et c'est une chose surprenante que de dire cela, entre parenthèses, pourquoi l'apôtre Paul n'aurait pas dit dans sa recommandation « Vous êtes devenus les imitateurs de ceux qui sont en Jésus-Christ dans le reste de la Macédoine et dans d'autres endroits. Pourquoi est-ce qu'il souligne en particulier l'église de Judée ? Et il parle du début même de l'église et il dit « Frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. » En Judée, ils avaient beaucoup souffert, une grande persécution. Et c'est pour cela, probablement, qu'il les cite ici. Il y a eu d'autres persécutions ailleurs, mais en particulier en Judée, dès le début. Et leur histoire, la manière dont les gens sont convertis, et leurs familles juives les rejetaient. Il y avait beaucoup de persécutions là, à Jérusalem, en Judée, et les chrétiens ont été dispersés dans tout l'Empire romain. Ceci était bien connu des convertis de Thessalonique. Et même s'ils étaient non-juifs, à leurs yeux, le pays d'Israël était un pays particulier. C'était là pour les non-juifs. Oh, ils haïssaient ce pays, mais aux yeux des non-juifs, c'était un pays sacré, un pays particulier et unique. Et même là, il y a eu une grande persécution pour leur conversion à Christ. Ainsi, l'apôtre Paul leur rappelle ceci et son but est évident alors que nous continuons. Frères, vous êtes devenus les imitateurs, non pas forcément consciemment, mais les imitateurs ou ceux qui imitent les convertis juifs dans le pays d'Israël. non pas forcément consciemment, mais par leur conduite, ils faisaient les mêmes choses. Ils étaient les imitateurs des églises de Judée. Ils témoignaient ici et là et ils se tenaient fermes contre la persécution qui s'est élevée contre eux à cause de leur conversion. Et pour étudier ce passage, nous devons souligner un terme, les églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez remarqué ceci? C'est au pluriel, les églises de Dieu. Et c'est là la manière de parler dans toutes les lettres de Paul. De nos jours, nous parlons d'une manière plus large quand nous disons l'Église de Dieu. Quand nous utilisons ce terme, l'Église, parfois nous nous référons à toutes les églises qui disent être chrétiennes. Même parfois, les gens incluent l'Église catholique. Non, Paul n'utilise pas ce terme pour inclure tout le monde, les vrais chrétiens et les chrétiens qui ne sont pas sincères. Non, il n'utilise pas ce terme dans un sens national non plus. Il ne dit pas « vous avez suivi les églises de Dieu en Judée », comme si toutes les congrégations en Judée pouvaient être appelées les églises de Judée. Non, d'une manière délibérée, il dit, et c'est ce qu'il fait ailleurs, il dit « les églises de Dieu ». Parce que chaque congrégation devant Dieu, aux yeux de Dieu, selon le Nouveau Testament, est une église devant Dieu. Il n'y a pas de dénomination dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'église nationale. Il n'y a pas de groupe organisé d'église dans le Nouveau Testament. Il y a simplement les églises, chaque église est individuelle, autonome, indépendante, souveraine, directement sous la direction de Dieu, directement reconnue comme son Église, comme ses enfants. Et c'est là l'enseignement de la parole de Dieu, que les églises de Dieu qui sont en Judée sont en Jésus-Christ. Et nous nous tenons à ceci de nos jours, parfois, quand nous parlons des églises, nous nous référons à toutes les églises qui sont fidèles à la parole de Dieu et peut-être nous disons l'église. Mais nous ne devrions pas faire cette erreur, nous devrions dire les églises de Dieu en suivant l'exemple de l'apôtre Paul. Et nous voyons ceci dans ce texte, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, ces unités individuelles, ces églises locales, qui sont non une hiérarchie ou un synode, mais Jésus-Christ œuvre en chaque église individuellement. Ces églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Nous avons vu ceci auparavant, c'est intéressant. Ces églises locales étaient en Judée, mais leur localisation géographique n'est pas importante. Ce qui est plus important, c'est qu'elles sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elles puisent leur force, leur puissance, leur salut, en lui, elles sont liées à Jésus-Christ et en relation avec lui, qui dans la Judée sont en Jésus-Christ. Et soulignez également que dans ce passage, l'apôtre Paul ne reconnaît pas en aucune manière les synagogues juives, mais il parle des églises de Christ. Il y a une nouvelle ère à présent et l'ère juive est finie. Le drapeau juif n'est plus là. Il a été mis de côté. Et le nouveau drapeau, c'est l'Église internationale de Jésus-Christ ou ces églises locales de Christ avec ses juifs convertis et ses non-juifs convertis ensemble. Et il n'y a plus de mur entre les deux. À présent, quand il parle de ceux à qui il ressemble, ce sont les convertis dans les églises qui sont en Jésus-Christ en Judée. Et la raison pour cette ressemblance, c'est une grande marque de la grâce. Nous avons vu ces signes d'une authentique conversion. Et ceci est souligné par l'apôtre Paul. Je ne vais pas vous rappeler des autres signes, mais le signe important ici, c'est d'être prêt à souffrir pour témoigner pour Christ. Si nous sommes silencieux et que toute notre vie nous sommes timides et nous ne témoignons pas, que nous n'avons pas une parole pour quiconque que nous ne participons pas dans cette œuvre pour gagner les âmes, pour témoigner pour Christ, Paul semble dire qu'il faut mettre un grand point d'interrogation sur notre conversion, parce que c'est là un signe de notre conversion. Et nous avons vu ceci dans les versets auparavant. Car vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est réellement convertie ne peut pas mettre ceci de côté? Parce que ces gens ont une expérience, une assurance, une certitude, une joie telle qu'ils ont un cœur pour les autres et qu'ils ont cet amour pour les autres qui sont encore perdus comme eux étaient auparavant. Et ces gens veulent les gagner. Ils prient pour ces occasions, pour témoigner pour Christ, pour parler au bon moment. Et ils soutiennent les efforts des autres également et se joignent à cet effort dans l'Église pour témoigner dans cette communauté autour de nous, pour enseigner les enfants, les adultes des choses de Dieu, pour distribuer des tracts et la littérature pour proclamer Christ. Et c'est un signe de la grâce. Et s'il y a la persécution, l'opposition, et que nous sommes mis de côté dans l'endroit où nous étudions, où nous travaillons, et que nous sommes désavantagés, alors, pour l'amour des âmes et pour Christ, nous allons endurer ces choses. C'est un signe d'une vraie conversion. Ainsi, l'apôtre Paul souligne ici, ils sont prêts à souffrir. Les gens de Thessalonique ont souffert, et ils ont souffert à cause de Christ. Voyez au verset 15 qui se réfère aux Juifs inconvertis qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes et qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. L'apôtre Paul va commencer ici cette critique des Juifs inconvertis. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Ceci est souligné et fort au verset 15 et au verset 16. Et c'est nécessaire pour deux raisons, ou même pour plus de raisons, mais au moins pour deux raisons. Ces convertis, parmi les Thessaloniciens, avaient une bonne opinion des Juifs, des gens sacrés, si vous voulez. Ils n'aimaient pas les Juifs, mais il y avait cette hostilité constamment. Ils ne les aimaient pas, mais ils les respectaient d'une manière particulière. Et ainsi, ces Juifs pouvaient être un obstacle. Si le peuple juif est contre l'Évangile, il y avait beaucoup de convertis, mais si de manière générale ils étaient contre l'Évangile, contre Christ, alors très certainement, c'est quelque chose que nous devons mettre de côté. Parce que ne sont-ils pas les gens sacrés, les gens particuliers, avec toute leur histoire, et Dieu a œuvré dans leur nation? Et ils sont contre l'enseignement de l'apôtre Paul, des autres apôtres et du salut en Christ. Ainsi, il est nécessaire pour l'apôtre Paul de montrer que les Juifs sont réellement dans l'erreur et qu'ils ont tourné leur dos aux Écritures qu'eux-mêmes gardaient précieusement et ils ont rejeté leur propre Messie, leur propre enseignement. Si Paul n'avait pas fait cela, ceci aurait pu mettre la confusion dans l'esprit des non-juifs. Et de même, aujourd'hui, les gens ont la même idée en regardant les gens qui se disent chrétiens. Et peut-être à la télévision, quand ils voient ces cultes qui sont retransmis, tout ce clergé qui prie avec les yeux ouverts, et ils voient toute cette hypocrisie, tout ce non-sens et cet orgueil. Et ainsi, ils méprisent les chrétiens. Et parfois, nous devons dire, « Oh oui, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. C'est là une fausse religion. Ceci n'est pas la vraie foi. » Mais ce qui est important, c'est que vos péchés soient pardonnés, de venir à Christ, de marcher avec lui. Et devons nous séparer de ces choses et de l'Église de Rome, également de l'Église catholique, qui ne croit même pas dans le salut, parce qu'ils croient dans le salut par les œuvres, mais pas par la grâce, par la puissance de Christ, et par le pardon et cette nouvelle naissance. Et c'est là ce que nous faisons, c'est là ce que l'apôtre Paul fait. Il doit expliquer que ces gens ne sont pas si particuliers que ça, et quand le Messie est venu, ils l'ont rejeté en grande partie. C'est pour cela qu'il doit critiquer les Juifs ici et ce qu'ils ont fait. Beaucoup ont été convertis, mais la plupart d'entre eux ne l'étaient pas. Au verset 15, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus. En grec, dans l'original, ceci est fort. C'est ceux qui ont tué, mis à mort le Seigneur, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus. Dans l'original, c'est ils ont mis à mort le Seigneur. Ils ont mis à mort leur Messie, celui qui était d'une manière évidente, d'une manière si évidente, le Messie. Ils ont vu ces miracles si extraordinaires, des milliers de miracles. Ils ont entendu son enseignement. Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Et cependant, ils l'ont mis à mort parce qu'ils ont haï leur Messie qui parlait du pardon des péchés, etc. Et Jésus-Christ, c'est là son identité. Mais avant tout, il était le Messie qui ont mis à mort le Seigneur. Et nous pouvons mettre une virgule après cela, Jésus. Dans l'original grec, ceci souligne le terme le Seigneur et leur propre prophète. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec ceci, mais ceux qui connaissent la parole de Dieu sont surpris ici, parce que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas beaucoup de prophètes qui sont tués par les Juifs. Il y a peu de prophètes qui sont mis à mort. Et cependant, l'apôtre Paul dit « Ils ont mis à mort leur propre prophète ». Et le Seigneur Jésus-Christ a dit exactement la même chose. Dans un discours, il a dit ceci 3 fois. Et personne ne peut le contredire. Les Juifs ne l'ont jamais contredit sur cela. Et même si les détails ne nous sont pas donnés dans l'Ancien Testament, tout le monde savait, même au temps du Nouveau Testament, que les Juifs ont été contre leurs prophètes et les ont persécutés. Nous voyons Jérémie, la manière dont il a été traité. Nous voyons la manière dont Ésaïe a été ignoré. Nous voyons ce qui s'est passé pour d'autres. Non seulement Élie, mais également Élisée. Ils n'ont pas pu le mettre à mort, mais toujours à nouveau, ils voulaient l'arrêter. Et l'histoire est vraie. Nous voyons cette persécution. Ils étaient contre leurs propres prophètes qui ont persécuté le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes. Mais ces prophètes qui ont parlé de Christ, qui ont donné ces prophéties claires, qui parlaient de ces caractéristiques du Messie, quand il viendra, comment il sera né, ce qu'il fera, sa grande œuvre, ils ont, dans un certain sens, tué les prophètes parce qu'ils les ont ignorés. Quand Christ est apparu, qu'il a accompli toutes ces prophéties, ils ont ignoré ces prophéties. Ils les ont tués, mis à mort dans la manière par laquelle ils les ont traités, mais également en ignorant leurs prophéties inspirées et qui nous ont persécutés. L'apôtre Paul et les autres apôtres, nous savons ceci, nous voyons ceci dans l'histoire des Actes des apôtres, et qui ne plaisent point à Dieu. Ces paroles sont très puissantes. Ne pensez pas un instant que ces Juifs incrédules et même leurs chefs des Juifs, les scribes, les pharisiens, etc., ne pensaient pas qu'ils avaient la faveur de Dieu d'aucune manière. La manière dont c'est exprimé dans l'original, ils ne plaisent point à Dieu. Ceci signifie qu'ils sont rejetés par Dieu, ils ne sont pas acceptés devant Dieu. Ils ne sont pas dans cette catégorie de ceux qui croient et qui le connaissent et qui marchent avec lui. Ils sont des gens qui sont rejetés. Et l'apôtre Paul ajoute à la fin du verset 15 « et qui sont ennemis de tous les hommes ». Oui, le clergé juif et le peuple juif haïssaient les non-juifs. Ils ne se voyaient pas comme ceux qui devaient proclamer la parole de Dieu aux non-juifs, mais ils les haïssaient, ils les méprisaient, à tel point qu'au verset 16, ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit « Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu vous-même et vous empêchez d'autres d'y entrer. » Le terme qu'il utilise, c'est que vous empêchez, vous interdisez aux gens d'y entrer. Et ceci est très important. Et grave, au verset 16, l'apôtre Paul dit « comblant ainsi toujours plus la mesure de leur péché ». Cela signifie d'augmenter la mesure de leur péché. Ou l'apôtre Paul, c'est comme s'il disait « ils ne peuvent pas pécher plus que cela, que de persécuter la vérité et d'empêcher d'autres de recevoir la vérité ». Leur péché est entier à ce moment-là. Et le résultat de cela, mais la colère de Dieu, l'indignation de Dieu contre le péché est venue sur eux pour y mettre un terme ou parfaitement. Ce qui signifie cela, qu'ils étaient sous le jugement et qu'ils étaient rejetés de Dieu. Cette ère des privilèges juifs où, de siècle en siècle, Dieu allait donner toute sa révélation aux Juifs par la nation juive. Quel privilège! Cette période était finie. Il ne fera plus cela. La colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme. Ou c'est la fin, littéralement. Après des siècles d'avertissement, cette période des privilèges juifs est fini. Non, bien sûr que tous les juifs ne périront pas parce que, comme parmi les non-juifs, il y a ces élus qui seront sauvés. Parmi les juifs, Dieu va sauver un grand nombre de juifs dans sa miséricorde, dans sa compassion, pour les amener à la repentance. Mais en tant que nation, il n'y aura plus de privilèges particuliers de la part de Dieu pour les juifs. Et c'est là ce que dit l'apôtre Paul. Et ensuite, il continue au verset 17. Mais j'aimerais en passer au verset 18 d'abord, pour revenir au verset 17 plus tard. Il dit « Nous avons donc voulu une et même deux fois aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. » Et c'est un deuxième point rapidement. Cet empêchement, Satan qui les a empêchés. Vous ne pouvez pas toujours dire cela, savez-vous. Quand vous ratez votre bus ou que vous arrivez chez votre ami en retard à cause de cela, vous ne pouvez pas dire « Satan m'en a empêché ». Dans ce contexte, le contexte de ces paroles, c'est l'Évangile. Paul prêche l'Évangile et prend soin des convertis. C'est l'œuvre chrétienne. Et en cela, vous pouvez dire parfois « Satan nous a empêchés ». Il a été un obstacle. L'apôtre Paul ne dit pas comment, c'était un acte peut-être de persécution ou quelque chose qui était clairement inspiré par Satan et ses démons qui étaient contre l'Évangile et qui a rendu cela impossible pour l'apôtre Paul de revenir et voir les Thessaloniciens. C'était un obstacle mis en place par Satan. Mais Satan nous en a empêchés. Comment ceci est possible? Comment est-ce que Satan peut être permis d'être un obstacle? Est-ce que Dieu n'est pas tout-puissant? Mais c'est la volonté de Dieu qu'il y ait ces moments où Satan sera capable d'être un obstacle pour nous. Et le Seigneur le permettra. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Ainsi, nous pouvons voir quelle est sa haine contre l'Évangile, son opposition. Si chaque fois que Satan s'oppose à l'Évangile, Dieu œuvre pour ouvrir les portes, alors vous ne verriez jamais la haine de Satan contre l'Évangile et cette opposition. Parfois, il doit être permis qu'il soit un obstacle de différentes manières, sinon nous ne verrions pas la réalité et la vérité et nous penserions que Satan et tout le monde est pour l'Évangile. Non, parfois, Dieu doit permettre à Satan d'œuvrer de manière à ce que tout le monde voit son hostilité, sa haine contre l'Évangile et pour qu'il soit jugé. Ainsi même les apôtres savent qu'il y a ces persécutions, ces actes hostiles qui les empêchent d'avancer dans l'Évangile, dans ces choses qu'ils désirent faire. Satan nous en a empêchés. Il y a beaucoup d'obstacles, même de nombreux obstacles, même aujourd'hui, ces obstacles de Satan. Il y a des gens qui, dans cette ville, vous savez, peut-être des gens que vous connaissez, des collègues, des amis, et c'est tellement difficile de les gagner à l'Évangile. Chaque fois que vous dites une parole, ils ont toutes sortes d'objections, d'excuses qui leur ont été données par la société, c'est Satan qui agit. Ils ont lu certains de ces livres athées qui ramènent à nouveau tous ces arguments hostiles, ces vieux arguments auxquels l'Évangile a déjà répondu, qui disent « Oh, vous ne pouvez pas croire en Dieu pour cette raison, pour cette autre raison. » Et tout ce lavage de cerveau qui vient de la télévision, de la littérature, même dans les écoles de nos jours, il y a tant de lavage de cerveau de la part des athées dans les écoles de nos jours, c'est incroyable. Chers amis, Satan nous amène ces obstacles. Oh, si nous pouvions gagner les âmes par notre propre puissance, alors nous pourrions abandonner. Parce qu'il y a tout le temps ces obstacles de Satan. Et vous savez comment les gens sont, ils sautent d'un argument à l'autre. C'est la situation de l'homme, il est loin de Dieu. C'est un Dieu saint, c'est là ce qu'il a fait, c'est là ce que le Sauveur a fait, c'est là ce dont nous avons besoin, c'est là notre expérience, nous sommes convertis, ils ne vous écoutent pas. Mais ils se rappellent de leur prochain argument et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être un croyant selon les théories athées. Et ah, vous pouvez répondre à cela, c'est une question facile, vous commencez à répondre, mais ils n'écoutent pas, ils pensent déjà à la prochaine objection. Et leur tête est pleine d'objections, de problèmes qu'ils peuvent mettre en avant. Et vous pouvez passer une journée à expliquer, mais ils n'écoutent pas votre réponse. Tout ceci, ce sont des obstacles de Satan. Alors que faites-vous ? Oh, vous continuez à témoigner pour le Seigneur et vous priez, parce que Dieu va œuvrer en son temps, selon sa manière, et vous plantez la graine, la semence. Et Dieu, par l'Esprit Saint, va humilier cette personne, ouvrir son esprit, et cette personne va réaliser son besoin de Dieu. Et le Seigneur donne ses yeux pour voir, « Oh, nous avons une puissance bien plus puissante et forte avec nous que tout ce matériel, cette littérature athée. » Et le Seigneur œuvre en réponse aux prières. Et nous continuons par la foi que Dieu va faire germer la semence et ouvrir les yeux. Il y a tant de distractions de nos jours, si ce n'est pas des pensées athées, alors les gens sont tellement pleins dans leurs pensées de désirs, de convoitises ou de distractions, de loisirs, de ces choses, de ce monde. Et ils sont découragés par certains hypocrites religieux. Tout ceci fait partie des obstacles de Satan. Une personne qui semble religieuse et qui fait quelque chose de terrible. Et alors Satan souligne ceci pour que les gens ne viennent pas à Christ. Ils connaissent toutes ces doctrines fausses qui sont là, par exemple dans l'église de Rome, dans l'église catholique, qui donnent ces idées qui trompent les gens par rapport à Dieu. Et il y a également ces actes hostiles qui sont directement inspirés par Satan, pour rendre silencieux les chrétiens. Et nous connaissons ces obstacles de Satan, et Paul se réfère à cela ici. Nous avons donc voulu une et même deux fois aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés, mais pas complètement. Parce que par la prière, les obstacles de Satan sont enlevés, et même les gens qui sont le plus contre l'évangile, leurs yeux sont ouverts, ils réalisent leurs besoins de Christ et ils viennent à lui et ces occasions nous sont ouvertes pour parler de Christ. Ainsi, ces obstacles de Satan dont Paul se réfère ici sont mis de côté. Et il y a cette grande joie, cette satisfaction de voir les gens sauvés. Et j'aimerais conclure avec cela pour revenir au verset 17. Et c'est là mon dernier point, c'est la joie de porter du fruit. Voyez ce que l'apôtre Paul dit, ceci est extraordinaire, chers amis. Pour nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps de corps et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de vous revoir. La manière élégante de cette traduction peut-être nous empêche un peu de comprendre entièrement ce texte qui est si raffiné que je me demande si nous comprenons ce que l'apôtre Paul dit. Considère à nouveau ce verset, le verset 17. « Mais nous, frères, ayant été séparés de vous depuis quelque temps, en grec, c'est déchiré, loin de vous. Il ne voulait pas les laisser parce qu'il était si attaché à ces nouveaux convertis. Son cœur est avec eux. Frères, pour nous, frères, ayant été séparés de vous, Paul a dû partir à cause de la persécution. Ils ont insisté pour qu'il parte depuis quelque temps de corps et non de cœur. Nous sommes toujours encore là dans notre cœur. Notre affection est encore avec vous. Notre souci pour vous. Nous avons eu d'autant plus d'ardeur qui parle ainsi. Nous avons essayé, même au-delà de nos meilleurs efforts, si vous voulez. L'apôtre Paul utilise beaucoup de superlatifs ici. Nous avons eu d'autant plus d'ardeur. Nous avons essayé, même avec beaucoup plus d'efforts, de vous revoir ou de nous retrouver face à face avec vous, avec empressement et beaucoup d'affection et de désir. Est-ce que vous comprenez ici cet amour fort, cette compassion, cette union qu'il a avec ses convertis de Thessalonique? Et nous pourrions dire, c'est là l'un des secrets de l'apôtre Paul et de Silas et de Timothée. Ils n'étaient pas intéressés par ce qui les attendait pour le repas du soir, quand ils allaient rentrer, ou par les meubles qu'ils pouvaient acheter, ou par leurs biens. Ils n'étaient pas intéressés par le luxe et le confort de cette vie présente. Où est-ce qu'ils trouvaient leur joie? Quelle était la source de leur encouragement, de leur joie? Ceci était dans les croyants. Voici là des gens dans la ville de Thessalonique qui sont dans les ténèbres spirituellement, qui ne connaissent pas Dieu. Leur esprit est si aveugle. Ils croient dans cette confusion superstitieuse, ces gens qui ne peuvent pas contrôler leurs péchés, leur mauvaise humeur et leurs désirs. Ce sont des gens qui sont perdus. Beaucoup d'entre eux sont profondément des gens méchants, des gens qui sont dans toutes sortes de problèmes, de péchés. Et à présent, il y a ces gens pour qui Dieu a œuvré dans leur cœur. Il a ouvert leur esprit, ils ont entendu l'évangile et ils ont compris l'évangile, ils ont été touchés, ils se sont repentis, ils sont venus à Christ et leur nature même a été transformée et leur vie a été transformée. Et à présent, ils ont ce cœur de chrétien et ils désirent que d'autres soient sauvés. Aussi seulement l'apôtre Paul pouvait encore être parmi eux et voir leur visage et entendre parler de leur expérience, de leur triomphe, de leur joie, des réponses à leurs prières, leurs difficultés et comment Dieu a agi dans leurs difficultés. Ces gens qui sont transformés, qui sont convertis, il est avec eux dans leur cœur parce qu'il est leur ami. Aussi seulement nous pouvions être plus comme l'apôtre Paul, plus en souci par rapport à ces convertis, à ceux que Dieu amène à lui, que Dieu transfère du royaume des ténèbres dans le royaume de son bien-aimé Fils, qu'il libère, qu'il délivre et qu'il transforme. C'est là l'amour de l'apôtre Paul et sa joie dans ses convertis. Et au verset 19, « Car quelle est notre espérance, notre anticipation, notre joie, notre bonheur ou notre couronne de gloire ?» En grec, quelle est notre couronne de gloire, comme celle qui est posée sur la tête des athlètes dans les Jeux olympiques, dans cette ville grecque? Quelle est notre espérance, notre grande joie ou notre couronne de gloire, de réjouissance? N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Ce n'est pas simplement les Thessaloniciens, mais même vous, ce terme, même vous aussi. Ce terme ici signifie vous aussi. N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Parce que c'est de même pour les Colossiens et il dit presque la même chose à d'autres églises. Ainsi, ce n'est pas simplement les Thessaloniciens, les convertis dans cette ville, mais c'est tous les convertis. Et il se rappelle du visage de tant de ces personnes. Et il s'imagine leur visage et leur espérance dans le ciel. Ils ont été transformés, ils ont été émancipés et délivrés de la superstition. Ce sont des gens qui aiment le Seigneur, qui ont ce caractère pour lui, pour le servir, pour l'aimer. Bien sûr, son espérance la plus grande, c'est d'être avec Christ, bien évidemment. Mais sa plus grande espérance terrestre, ce ne sont pas ses biens, sa maison. Bien sûr, vous pouvez avoir des biens. Et bien sûr, vous devez faire en sorte que votre maison soit propre et confortable et acceptable autant que possible. Et vous pouvez prendre du plaisir dans les choses de cette terre. Mais ces choses ne doivent jamais être votre plaisir suprême ou votre joie suprême, mais ce sont les choses du Seigneur qui sont votre joie. Et parmi ces choses, de voir ceux qui sont convertis. Et vous avez œuvré avec d'autres pour ramener les enfants, et vous avez toqué à la porte, vous avez témoigné ici et là et partout, et les gens ont été sauvés, et vous avez prié pour les missionnaires et pour les pasteurs que l'on soutient, et pour les œuvres chrétiennes, pour les moniteurs de l'école du dimanche. Et individuellement et ensemble, nous partageons le fruit, et nous avons ce privilège de connaître tant de personnes qui sont venues au Seigneur, même ces derniers temps. Et il y a tant de personnes où nous n'avons pas vu le fruit, mais quand vous allez arriver dans la gloire, vous allez voir le fruit entièrement. Ces gens que vous avez soutenus, ces gens pour lesquels vous avez prié, et vous allez voir à ce moment-là, ces gens qui sont entrés dans le royaume de Dieu, quand vous serez dans la gloire éternelle, le fruit de votre témoignage. Et par le témoignage de ceux que vous avez amenés au Seigneur, et vous voyez l'effet et le fruit pour le Seigneur. Et ceci, bien sûr, le Seigneur est notre joie en premier, mais ceci sera une source de joie. Et de même aujourd'hui, notre grande joie, c'est de voir le fruit et de parler avec les convertis. Et c'est là ce que dit l'apôtre Paul. Ne soyons pas surpris qu'il pouvait endurer la persécution et la difficulté et faire cette œuvre qu'il a faite. Quelle est notre espérance, notre anticipation? Bien sûr, après Christ et le ciel, quelle est notre joie? Quelle est notre couronne de gloire? Notre couronne de bonheur, n'est-ce pas vous aussi? Vous aussi, tout autant que d'autres, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à son avènement. Quand il sera manifesté à la parousie, à la fin du monde, vous serez notre gloire et notre joie. Et c'est la manière dont nous devons réfléchir, chers amis. Portez vos regards, fixez votre regard sur le fruit, sur le message et prêchez l'évangile. Et soyez dans la joie de parler avec ceux qui sont sauvés et pensez à ce grand rassemblement éternel et le fruit de tous les siècles, l'œuvre de Christ, cette joie. Dans le fait de porter du fruit, c'est là le thème principal de ces versets, qu'ils puissent être une bénédiction pour nous.